SRF bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à la diaspora africaine, bienvenue dans votre émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, bien sûr sur Radio Kanal K en Suisse alémanique. Eh bien, merci de nous être fidèles également sur nos radios partenaires, notamment le Genre FM à Lomé au Togo. Eh bien, croisons les doigts pour que le Genre FM, qui va bientôt retrouver ses programmes après sa fermeture par la HAC suite à l'incident survenu lors d'une émission à propos du déroulement des élections législatives au Togo. Bonsoir aussi à vous qui nous suivez sur Avra, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Et pour nos auditeurs panafricanistes qui nous retrouvent également tous les dimanches sur Radio d'Enigma aux USA, bonsoir à vous. Eh bien, après les résultats provisoires des élections législatives contestées déjà par l'opposition togolaise, est-ce que cette opposition va-t-elle renouer avec le même cycle, élections, contestations, dialogue? Eh bien, nous en parlerons dans un instant avec nos invités depuis Lomé, également ici même dans la diaspora. Eh bien, comment s'est également déroulée les missions d'observation pour ces élections législatives? Explication avec deux observateurs de la mission d'observation MOE Diaspora, en direct depuis Lomé et depuis Ouagadougou. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous être fidèles et bonsoir également à Martine et Emmanuel qui nous écoutent en direct depuis les USA, à Constance depuis Genève, à Roger depuis la Suède. Merci de notre fidèle, de nous être fidèles et dans quelques instants, notre éditorial. Comme son prédécesseur, Patricia Wilkins, qui a affiché ses amours et sa grande admiration pour la dictature implacable de Faure Gnassingbé, c'est au tour de Robert Whitehead de prendre la relève en soutenant l'aberration, contrairement aux professions de foi du peuple américain et de son président Barack Obama, basé sur la dignité, le respect de la vie, la démocratie et toutes les bonnes litanies si chère aux nations dites puissantes et institutions internationales dites respectables. Monsieur Whitehead, qui s'est curieusement investi dans un semblant de résolution de la crise togolaise en s'invitant dans le dialogue au pouvoir opposition, il est donc à la veille des élections législatives aux côtés du prélat Monseigneur Barriga. La dictature tourne donc en bourrique au gré de ses humeurs. En effet, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, dans sa fameuse déclaration, invite tous les partis politiques à respecter la volonté du peuple togolais et salue le travail de la Commission électorale nationale indépendante. Rien qu'avec cette portion de phrase, on peut se rendre facilement compte que ce diplomate ne porte pas de gants pour soutenir le régime de Faure Gnassingbé. Que c'est ce monsieur de la volonté du peuple pour qu'il demande qu'elle soit respectée. Une chose est sûre, les Togolais aspirent à une alternance politique au sommet de l'État pour un changement radical dans la gestion du pouvoir. Voilà la volonté du peuple. Et c'est pour ce rêve qu'ont réalisé et plusieurs fois les Béninois, les Sénégalais, les Ghanéens et autres qui se battent depuis des lustres. Le peuple américain fait-il face à un pouvoir dictatorial et dynastique avec au total 50 ans de règne sans partage, caractérisé donc par des violations de droits de l'homme, des assassinats, des massacres, des crimes économiques, l'impunité érigée en mode gouvernance et autres ignominies? Eh bien, en conclusion dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, les Togolais doivent définitivement oublier que la communauté internationale ne viendra jamais résoudre les problèmes du Togo, voire celui ou ceux de l'Afrique, car chacun pense à ses intérêts. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère, avait affirmé Thomas Sankara. Merci de votre fidélité dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, sur les gens des femmes à Lomé au Togo, sur la VRA, la voix de la résistance africaine, également sur notre radio partenaire, Radio Denigan, basée aux USA.
Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laïa. Manejamo Africa, moi sonyo natangé.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, après la proclamation provisoire des élections législatives au Togo, notre correspondante Fabie Kouassi revient dans une réflexion titrée « Quand les unes ne peuvent venir à bout d'une dictature séquentenaire ». Fabie Kouassi, bonsoir depuis Lomé.
Sylvain Amous, bonsoir. Tu as dit l'une des leçons de la dernière mascarade électorale qui a consisté à choisir des députés Bruxelles dans une gigantesque loterie et que la dictature togolaise ne partira pas par les élections, en tout cas pas celles qui seront organisées par le régime en place. Les frauduleuses législatives qui viennent de se dérouler sous les yeux de l'opinion nationale et internationale viennent de le confirmer, attestent que les élections au Togo se passent et se ressemblent, et c'est le même camp qui subtilise à chaque fois le jackpot au nez et à la barbe des autres concurrents avec la bénédiction des missions d'observation bidon et des diplomates véreux. Le moins qu'on puisse dire est que ces législatives sont sorties de leur cadre légal car ne répondant à aucune norme démocratique malgré les satisfaits BIA surprenants et suspects de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne par la voix de Mme Catherine Ashton et du très controversé ambassadeur des États-Unis au Togo, M. Robert Whitehead, qui va jusqu'à féliciter la commission électorale pour l'organisation de cette mascarade et invite les partis politiques à respecter la volonté du peuple togolais. Une déclaration qui continue de susciter un véritable tollé ici, car la volonté du peuple togolais est de se débarrasser de ces dictatures féroces par les urnes, pourquoi pas, et non de la voir se perpétuer, comme semble savoir ce diplomate trop admiratif d'un régime autant décrié pour des intérêts obscurs. Les âmes sensées savent tous que ces législatives, comme tous les autres scrutins, ne sont pas crédibles. 116 000 bulletins nuls enregistrés pour la CENI. Plus d'un quart de Togolais ne savent pas voter en 2013, une insulte aux citoyens en âge de voter. Une commission électorale taillée sur mesure avec la belle part au parti au pouvoir, des bourrages d'urnes, des achats de conscience, des bureaux de vote fictifs, l'enrôlement des mineurs et étrangers, des cartes d'électeurs avec la signature d'un ancien président de cette institution pour ne parler que de ces graves anomalies. Comment comprendre que M. Gilchrist Olympio, avec son union des forces de changement en seulement 3 ans de mariage avec le régime de Faure Gnassingbé, tel que les Togolais ont considéré ce mariage comme une trahison, soit sévèrement sanctionné avec 3 petits sièges au prochain Parlement, et que le pouvoir dynastique de Gnassingbé, qui oppresse les Togolais depuis près de 50 ans, se retrouve comme par magie avec 62 députés. Le bon sens voudra au moins qu'on se rende compte de ce paradoxe. Les événements ont encore donné raison à ceux qui sont contre l'option électoraliste avec ce régime réfractaire à tout changement, de même que ces faux dialogues qui ne font que renforcer la dictature. Face à un régime où les élections n'ont aucun sens, où la vérité des urnes ne peut jamais triompher, le peuple et les acteurs du changement se retrouvent au pied du mur. En fait, le régime togolais contraint tous ceux qui aspirent au véritable changement à d'autres moyens pour obtenir l'alternance tant voulue au sommet de l'État. À cet effet, il n'est pas superflu de rappeler le préambule 2 et 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, auquel tous les États soucieux des droits humains disent être partis et qui stipulent que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler, de croire, libéré de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme et qu'il est donc essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Espérons vivement que les Togolais ne seront contraints un de ces jours en suprême recours donc à la révolte contre ce régime hors la loi qui a contre toute attente le soutien des nations censées faire respecter les droits humains et la démocratie.
Fabi Kwasi, merci et à samedi prochain.
Le togovie.com, Afrique Presse, togoactualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K. Le 7e pays le plus pauvre au monde selon le classement mondial de l'OMS vient de finir ses élections législatives. Eh bien, il s'agit bien sûr du Togo qui, Kayen, a bouclé son nouveau processus électoral. Commencé l'année dernière dans la divergence, il se termine logiquement dans le même départ et le même état d'esprit. Pouvoir et opposition se quittent donc dos à dos comme ils se sont vus tout au long du processus. La tension monte de cran après la proclamation des résultats provisoires annoncés par la CENI, donnant une large victoire au parti au pouvoir Unir, Union pour la République. Eh bien, malgré les irrégularités lors des relatives au Togo, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, l'Union africaine, l'Union européenne se disent satisfaits du déroulement de ces élections. Et face à cette situation, beaucoup de citoyens togolais évoquent un complot de la communauté internationale contre le Togo. Et donc, un manque de respect à un peuple qui continue de lutter de toutes les forces pour un Togo digne, un Togo libre, notre dénivant chéri. Eh bien, le FRAC, le Front républicain pour la tendance et le changement, a appelé ce matin à Lomé la population à une grande marche de contestation. Les observateurs ont-ils accompli leur mission comme cela se doit? C'est la question que se posent également beaucoup de citoyens togolais. Et car ils ont comme tradition de constater et de dire qu'en dépit de quelques couacs et problèmes mineurs, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Mais en réalité, la question de l'observation internationale d'une élection doit pouvoir se poser en d'autres termes après la nouvelle expérience togolaise. Une émission d'observation du MOE Diaspora était en observation au Togo lors des législatives. Nous accueillons dans un instant deux membres de cette émission d'observation pour nous éclairer sur leur mission. Samir Abi, bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous êtes membre de l'association Vision Solidaire au Togo. Vous êtes également membre de la mission d'observation du MOE Diaspora à Lomé. Également en direct depuis Ouagadougou, Burkina Faso, Sirima Adiruma. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner également en direct depuis le Burkina Faso. Eh bien, le pays des hommes intègres, comme on le dit souvent, vous êtes également coordinateur de la mission d'observation du MOE Diaspora. Merci de nous accompagner, merci de nous éclairer sur vos missions d'observation à Lomé au Togo. Directement, la toute première question à Samir Abi, qui est actuellement à Lomé. Alors, un vote sans grabuge dans la journée du 25 juillet dernier suffit à certains observateurs pour dire que le Togo est un exemple de démocratie. Alors, n'est-ce pas faire insulte à l'intelligence des Togolais quand on sait que après la fermeture des bureaux de vote, et c'est là que les manœuvres de tout genre avaient commencé? Samir Abi.
Ah ben disons, en fait, c'est des avis qui sont pas totalement partagés par la population. Parce que quand vous rencontrez la population après la proclamation des résultats par la CENI, beaucoup de gens sont déçus par les résultats qui sont sortis, qui ne reflètent vraiment pas les aspirations de la population togolaise. Première chose, ça veut dire que la libre expression de temps de la population togolaise n'a pas été respectée pour certains. Donc, on ne peut pas dire vraiment que les élections sont vraiment un exemple en date de démocratie, dans le sens que la démocratie voudrait dire que le libre expression de la population, de la majorité de la population sera respectée et autres. Et aussi, quand on voit, en fait, la plupart des récriminations sur le vote, sur les fraudes, sur des irrégularités, nos patentes qui ont été conservées, on ne peut pas dire quand même que, voilà, on est dans le standard démocratique au cours des élections diversifiées au Togo.
Eh bien, Sirima Adiruma, moi je le disais, vous êtes burkinabé, vous êtes actuellement au Burkina Faso, Ouagadougou, justement, et je le disais, vous êtes coordinateur de la mission d'observateur du MOE Diaspora et aussi. Alors, votre réaction après votre observation sur ces élections législatives qui ont eu lieu le 25 juillet dernier à Lomé au Togo?
Oui, je dois d'abord dire que le travail remarquable fait par Samir Abi et son équipe, moi, m'ont permis d'être tout de suite dans le bain et de comprendre d'abord les failles, parce qu'il y avait des failles. Hein. On a pu vérifier avec Samir à la veille du scrutin qu'un certain nombre de choses de base n'étaient pas encore effectives, comme tout simplement Samir me disait, c'est encore la veille du scrutin, du matériel de vote était encore à Lomé. Quand on connaît les distances quand même au Togo, on peut imaginer que en 24 heures, la commission, la CENI, n'ait pas pu véhiculer en temps et en heure tout ce matériel partout où il le fallait. Bon, ça c'est le premier constat déjà que que moi j'ai pu faire, hein, clairement. L'autre constat, comme observateur coordonnateur, c'est, on ne dira jamais assez, il y a comme un attachement viscéral des Togolais au fait de voter. Hein. En 2005, j'étais déjà au Togo, j'ai pu vérifier cette fois encore que les Togolais sont sortis en nombre pour voter. Donc voilà deux constats que je peux faire d'entrée dans ce débat-là.
Justement, merci beaucoup. On va quand même y revenir sur cette émission Observateur. Et pourtant, on l'a dit, il y a plusieurs irrégularités. On va y revenir. Alors, Samir Abi, de ce que vous avez observé et des réalités vécues sur le terrain, est-ce que vous croyez à l'alternance un jour au Togo quand on regarde finalement que ce que ces élections veulent dire dans ce pays? Alors, comment est-ce que cette alternance politique est possible, Samir Abi?
En fait, du coup, la population espère l'alternance. Il y a certains qui le disaient au cours de la campagne, en fait, 10 ans, ça suffit, 50 ans, c'est trop. Parce que c'est, bientôt, on est vers 50 ans de même régime dans un pays en voie de développement, c'est quand même trop, parce qu'on n'est pas arrivé à pouvoir promener une alternance ou une autre façon de gérer le pays pour arriver de l'avant. Mais aussi, ce qui ressort de ce scrutin, c'est que, et c'est là où on peut dire carrément que les résultats sont peut-être montés un peu de toutes pièces, c'est qu'on arrive à une majorité absolue pour un parti qui prend le temps de faire des réformes pour rester après 2015, encore au pouvoir. Donc, ça démontre carrément que 2015, l'alternance risque de ne pas venir comme les gens le souhaitent, parce qu'il y aura des blocages dans les réformes institutionnelles qu'il faut faire pour qu'il y ait justement de l'alternance. Donc, c'est la première chose. Seconde chose, c'est que le système électoral est tellement rodé avec des gens qui sont experts en matière de fraude électorale. Et la fraude a évolué, des petites fraudes massives qu'on avait, de visu, que tout le monde pouvait constater. On est arrivé à des fraudes beaucoup plus intelligentes, en fait, beaucoup plus réfléchies.
Oh là là, allô Sabi.
Soit fraudé par procuration, soit fraudé par les ordinateurs, par l'électronique et autres, qui permettent justement de voir asseoir systématiquement des résultats qui ne remplissent pas en fait les critères que voudraient les élections, que voudraient la population. Donc du coup, vu ce système-là, en 2015, on risque encore d'avoir des élections où des gens voteront, où il n'y aura pas de vraie considération du vote de la population, parce que le système de fraude est rodé. Et en plus, on a des observateurs qui constatent des faits, mais qui ne le disent pas. Et du coup, ils donnent du crédit à un système qui est là, qui ne permet pas de pouvoir ressortir les bons.
Justement.
Imaginez comment est-ce qu'on peut constater dans certains bureaux de vote qu'on a des suffrages exprimés qui sont supérieurs au nombre d'inscrits dans certains bureaux de vote au cours des élections.
Justement.
Imaginez les tas d'intimidations que les gens ont eues. Moi, personnellement, j'étais en mission instantanément dans la zone du ZIA. J'ai vu des tas d'intimidations des présidents du bureau de vote qui étaient directement intimidés par des gens du parti au pouvoir. Et on courait après eux pour les demander, mais c'est qui vous êtes, qui vous... Mais voilà quoi, les gens de la faute étaient là, ils ne pouvaient rien faire. La force de sécurité des élections, ils ne pouvaient rien faire. Donc, on a des intimidations de personnes, surtout dans les cantons. On a des problèmes d'habitisme qui conduisent des gens à ne pas savoir voter. Et on ne met pas des structures en place pour apprendre aux gens à voter, parce que c'est sur l'ignorance qu'on construit la fraude. Et vu que les gens sont ignorants, on peut leur permettre de faire n'importe quoi, les indiquer comment voter insidieusement. Donc, dans une telle situation, il est difficile de prévoir une alternance en deux Togo.
Merci Samir Abi depuis Lomé. On retrouve depuis Ouagadougou Sirima Adioma, et qui a été également observateur à Lomé au Togo. Et alors Adioma Sirima, et votre collègue Samir Abi vient de relever certaines irrégularités. Il a parlé de fraude massive et fraude intelligente, hein, dit-il également. Alors de ce que vous avez également observé, et alors des réalités vécu sur le terrain, est-ce que vous croyez effectivement à l'alternance politique un jour au Togo?
Oui, disons, l'alternance évidemment est une perspective lointaine hein, à ces jours au Togo. Pourquoi? Deux faits. On a d'un côté, je le disais tantôt, un peuple qui croit véritablement qu'il peut modifier les choses en allant voter. Ça, je pense que c'est vraiment, en termes de culture démocratique, civique, citoyenne, un acquis important pour le peuple togolais. Malheureusement, l'usage qui est fait de ce vote massif-là laisse à désirer, parce que tout simplement, et Samir le disait tantôt, il y a toute une orchestration hein, qui est bien rodée, qui tronque en fait ce qui devrait sortir des urnes. Voilà, et de ce point de vue, il faut se rendre à l'évidence que l'alternance par le vote n'est pas pour tout de suite au Togo. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va se poser la question de que fait-on, parce que c'est quand même ça qui intéresse sans doute vos auditeurs aussi. Voilà. On peut se rendre compte d'une chose, c'est que en même temps qu'il y a cette soif d'aller voter, il y a quand même une lacune importante. Hein, c'est le fait que les acteurs togolais puissent se mobiliser davantage pour protéger leur scrutin. J'entends par là, par la formation, par la sensibilisation et par beaucoup plus de personnes ressources sur le terrain le jour du scrutin, ça devrait permettre, je dis pas d'empêcher, mais en tout cas de freiner et peut-être pourquoi pas un jour d'arrêter cette mascarade qui n'a que trop duré. Moi, ce que j'ai pu voir, je ne peux pas comme d'autres collègues faire état de ce qui s'est produit après, puisque moi j'ai suivi surtout la journée du 25. Après, j'ai été amené à partir dès le 26 au matin. Donc, mais cela dit, ce que j'ai vu dans la journée du 25, en répondant à votre question, je dirais non. L'alternance n'est pas pour demain, pas parce que la base n'est pas prête, mais parce que le sommet n'est pas prêt pour accepter ce qui sort véritablement.
D'accord. Des urnes. Donc en clair, vous pensez que les élections ne sont pas pour le moment la solution à la crise sociopolitique que traverse le Togo depuis près de 50 ans. On va revenir sur vos missions d'observation au Togo. Et je le disais, vous deux, vous êtes membre de la mission d'observation du MOE Diaspora. Alors, Samir et Abi depuis Lomé, merci de nous accompagner. Alors, quand on écoute des officiels au Togo, on a l'impression que ces élections suivent des standards internationaux, alors que des faits font planer des hommes d'ombre sur ce scrutin. Vous-même, vous venez de relever quelques irrégularités, des fraudes massives, et des fraudes même intelligentes, disait Samir Abi. Alors, citons rapidement quelques-uns. Hein, le vote par anticipation, par exemple, des corps habillés avec son lot de procuration des soldats stationnés en RDC, en Côte d'Ivoire, Mali, etc. Et également l'authentification du bulletin de vote par l'hologramme directive, donc prise par la présidente de la CENI le 22 juillet, donc 3 jours avant l'élection législative au Togo. Et également les membres du quartier souvent au Togo qui ne peuvent pas siéger dans certains bureaux de vote. Hein. Et le non-affichage également des résultats dans les bureaux de vote. La liste est quand même très très longue. Hein. Alors rapidement, et Samir Abi, hein, peut-on douter, en bref, pour conclure, hein, de la crédibilité de ce scrutin hein, à Lomé, au Togo, j'allais dire.
Moi, comme je dis, des soldats togolais votent ici et en Côte d'Ivoire. Moi, je pose la question de savoir où est le vote de la diaspora togolaise. Voilà une diaspora togolaise qui est estimée à 1 500 000 à 2 millions de personnes. Une diaspora qui contribue chaque année à 60 milliards à l'économie nationale du Togo. Et c'est cette diaspora n'est toujours pas recensée officiellement. Cette diaspora, on lui refuse le droit de s'exprimer au cours des élections en disant justement qu'on n'a pas le moyen d'organiser des élections à l'extérieur du Togo pour qu'il ne puisse pas s'exprimer. Donc, je pense quand même que, en fait, ça demande carrément qu'on privilégie certains groupes, parce qu'on sait que ces groupes un peuple voter. Justement, dans la convention de groupe, on ne veut pas qu'ils votent parce qu'ils pourront constituer une source d'alternance et de changement dans le pays. Donc, disons que dans les standards internationaux, regardez, il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé. C'est que le 26 juin était en vote au Togo, le 28 juin organise aussi des votes au Mali. C'est vrai qu'on peut aussi beaucoup dire sur le vote au Mali, hein, pour dire beaucoup de choses, mais au moins, les Maliens de l'extérieur votaient, avaient le droit de vote. Mais pour comment se fait-il que des Maliens de l'extérieur puissent voter et les Togolais de l'extérieur ne puissent pas voter pour des processus électoraux? Donc, c'est vraiment une compréhension difficile à avoir devant en fait, de tels faits. Donc, en fait, ces faits sont de nature justement à impacter sur le vote, sur la transparence des votes, sur la vérité des urnes, telle qu'elle doit être proclamée, en fait. Donc, voilà, notre position, c'est que le Togo a encore beaucoup d'efforts à faire en ce sens-là pour pouvoir arriver à pouvoir normaliser en fait sa situation démocratique, à faire accepter la voix de tous les Togolais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Justement, Samir Abi, le réseau Dérange au Togo, ma question était, vu tout ce que vous-même vous avez pu relever comme fraude et irrégularité lors de ces élections législatives au Togo, est-ce qu'on peut-on douter de la crédibilité de ce scrutin, Samir Abi?
C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que, en fait, il sera difficile de généraliser, en fait. C'est ça aussi le problème avec les élections législatives. Avec les élections législatives, on a des zones où on peut dire, voilà, les résultats qui sont de ces zones sont des résultats qui reflètent vraiment ce que la population a voté. Et ce qui est intéressant dans le processus électoral, cette année, même au cours des élections du 23 juillet, c'est que jusqu'à 3h du matin le 26 juillet, on avait une forme de vote des populations qui étaient là. Ah, surtout dans la zone de Lomé, dans la zone de Yota, dans les zones de Yor, dans certaines zones qui nous ont, avec des populations, étaient là pour garder leurs urnes, pour qu'on ne vienne pas leur voler les urnes, les résultats. Tant qu'ils étaient là jusqu'à 3h du matin. Donc, on peut dire carrément que dans certaines zones, oui, les résultats reflètent vraiment ce que les populations votaient. Parce que les populations eux-mêmes, citoyens, qui sont enveillés, que ce soit au niveau des bureaux de vote et dans les commissions électorales locales, indépendantes, ils ont veillé à ce que les résultats soient vraiment l'inspiration de ce qu'ils ont voté. Maintenant, dans certaines localités, dans certaines régions, et surtout dans certaines régions qui sont vraiment éloignées, on a eu des cas d'intimidation, de violence. Et on a eu des votes qui ne reflètent vraiment pas ce que la population a voulu. Quoi. Donc on ne peut pas dire que c'est une élection crédible dans cette circonscription électorale.
Merci beaucoup, Samy Abi. Eh bien, Sirima Adjouma, depuis Ouagadougou au Burkina Faso, beaucoup d'irrégularités et pourtant certains observateurs se disent satisfaits du déroulement de ces élections législatives. Donc, même son de cloche auprès de la communauté internationale et africaine. Et rapidement, et votre réaction, et Sirima Adjouma.
Oui, je pense que l'observation électorale telle qu'elle peut se dérouler dans nos pays, et je pense qu'on vient de le vérifier dans le cas du Togo, il faut veiller à ce que l'observation internationale ne se discrédite pas. J'entends par là, il y a comme une sorte d'éléments de langage qui sont déjà prêts, hein, et qui peuvent servir dès le lendemain du scrutin ou même voir dès la soirée du scrutin. Et ce sont les mêmes choses qu'on entend. Vous connaissez la célèbre formule, hein, malgré les irrégularités constatées, l'élection s'est bien déroulée globalement et ces irrégularités n'entachent pas la sincérité du scrutin. Bon, ça, c'est ce type de phrase, on l'a entendu une centaine de fois dans les élections en Afrique et au Togo, ça n'a pas manqué dans la bouche du représentant spécial de l'ONU. On l'a entendu, et c'est infinite pour ne pas le citer. On l'a entendu dans la bouche d'une délégation conduite au niveau de la CDAO. On l'a entendu au niveau d'une délégation conduite au niveau de l'Union africaine, Et j'en passe. Bon, tout ça pour dire quoi? J'ai comme l'impression qu'il y a un discours convenu qui est prêt à servir et qui ne permet pas véritablement de pointer du doigt les véritables problèmes qui se posent à nos scrutins quant à leur sincérité. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que non. Il faut que ça interpelle tout le monde. Ça interpelle surtout les sociétés civiles africaines qui doivent se dire aussi que elles ont un rôle à jouer et qui est capital. Et c'est pour ça que je veux saluer cette initiative de la diaspora togolaise qui a voulu, par ma personne, mais bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, qu'on puisse aller à côté de nos frères et sœurs qui mènent un travail formidable, je l'ai dit. Surveiller avec eux qu'est-ce qui véritablement bloque encore. Je peux entendre ce que Samir a dit, mais une élection, pour qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit propre partout. Dès lors qu'il y a des localités assez importantes dans lesquelles des irrégularités reviennent à chaque scrutin, ben on a un droit de se poser si c'est pas l'ensemble du scrutin lui-même qui est entaché. Voilà. Donc moi je dirais que si on s'en tient vraiment à ce qui doit être le béaba d'une élection, les législatives telles qu'elles viennent de se dérouler au Togo ne constituent pas une avancée démocratique. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, messieurs Sirima Adiouma, depuis le Burkina Faso, Samir Abi, depuis Lomé. Vous êtes tous deux membres d'observation du MOE Diaspora. Vous étiez à Lomé au Togo. Sirima était également à Takwami, il l'avait dit. Hein. Donc, à entendre tout ce que vous avez pu expliquer, développer sur votre mission d'observation à propos de ces élections législatives au Togo, votre mission d'observation n'est pas totalement satisfaite de ces élections législatives. Merci de nous avoir accompagnés depuis Ouagadougou et depuis Lomé.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et merci à vous qui êtes actuellement câblés sur le www.kanaka.ca depuis l'Allemagne, depuis la Finlande, depuis la Norvège, la Suède, les États-Unis, ici même en Suisse, à Genève, à Lausanne, à Fribourg. Merci de nous être fidèles. Nous continuons toujours avec le dossier spécial sur le Togo. Le Front républicain pour la tendance et le changement conteste toujours les résultats provisoires des législatives et renoue également avec les manifestations de rue. Donc le FRAC a encore appelé ce matin les populations de Lomé à une manifestation. Nous accueillons dans un instant un leader du FRAC depuis Lomé.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous êtes chargé à la communication de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Eh bien, votre parti est également membre du collectif Sauvons le Togo. Vous contestez encore les résultats provisoires des élections législatives. Et vous avez de nouveau appelé le peuple à sortir dans les rues, même ce samedi. Est-ce que après 23 ans de combat avec le même cycle élection, contestation, dialogue, ne pensez-vous pas à changer de méthode de lutte puisque vous n'obtenez pas gain de cause à travers les manifestations et autres depuis 23 ans de lutte, Éric Dupuis?
Je ne vois pas comment on peut changer de méthode dans la mesure où nous avons la conviction que notre méthode est la bonne. nous sommes soutenus par une large majorité des populations togolaises et elles viennent de nous apporter encore leur soutien à travers les élections législatives que le Togo vient de connaître. Je pense que la lutte pour la démocratie, c'est comme la lutte pour l'indépendance que nos parents, nos grands-parents avaient menée des années durant. Une lutte peut paraître longue, peut paraître difficile, mais l'objectif qu'on s'est fixé doit être le seul moteur de notre lutte. Donc, pour nous, je ne pense pas qu'il faille songer à changer de méthode, à changer de stratégie. Nous avons en face de nous une dictature militaire, vieille de 50 années. Donc, c'est la mobilisation, c'est notre ténacité, c'est notre objectif premier qui doit nous guider. Aujourd'hui encore, nous avons invité nos populations au lendemain des élections frauduleuses, décriées par tout le monde. On avait eu peur à un moment donné qu'il y aurait des élections à cause des résultats décevants qu'on a obtenus. Mais que ne fut notre surprise, tous les Togolais étaient encore là tout le long de la marche et encore plus au moment du meeting à la plage. Et des milliers de Togolais rassemblés à la plage n'avaient qu'un seul objectif, c'est de continuer la lutte pour arracher le pouvoir à ceux qui nous maltraitent, à ceux qui considèrent les Togolais comme leurs esclaves.
Donc, depuis la contestation, répression, manifestation, dialogue, ce cycle va continuer, hein, avec Dupuis.
Non, dialogue, non. Vous savez, on avait demandé le dialogue avant les élections parce que nous pensions qu'à travers le dialogue, nous allons régler le problème des élections, nous allons régler définitivement le problème des élections. Malheureusement, certains individus pensant que parce qu'ils collaborent aujourd'hui avec le pouvoir, étaient assurés de gagner ces élections, ils n'avaient pas besoin de dialogue préalable. Bon, ils l'ont payé à leurs dépens. Hein, aujourd'hui, ils se sont retrouvés à deux ou à trois à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, leur parti est relégué au parti incongru du paysage politique togolais. Donc nous ne pensons plus au dialogue. Nous disons qu'il y a deux échéances qui nous attendent, à savoir les locales et la présidentielle de 2015. Donc il nous appartient aujourd'hui de faire tout ce qui est en notre possibilité pour que les réformes institutionnelles et constitutionnelles préconisées par l'accord politique global signé en 2006, ainsi que les recommandations des observateurs internationaux, aboutissent de manière à ce que nous puissions aller à des élections claires, transparentes et équitables, pour que pour une fois au Togo, depuis l'indépendance, le peuple togolais puisse choisir ses dirigeants. Voilà nos objectifs.
Justement.
Et nous sommes persuadés que nous allons les atteindre.
D'accord. Éric Dupuis, vous parlez encore une fois d'élections. Vous projetez déjà ou vous pensez déjà à une élection présidentielle en 2015. Est-ce que vous croyez toujours à une élection transparente au Togo, vu tout ce qui s'est encore passé lors des législatives au Togo, Éric Dupuis?
Mais si on ne doit plus penser aux élections sérieuses, transparentes, équitables, dans ce cas-là, arrêtons de combattre. Parce que vous savez, il y a deux solutions. Soit le peuple se soulève et dit, bon, ben on en a marre, dégagez. Ou alors, on peut imaginer autre chose. Mais aujourd'hui, nous sommes des partis politiques, hein, légalement constitués. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est la conquête du pouvoir par les urnes, dans la clarté et dans l'équité. Voilà.
Justement.
Donc, à partir de ce moment-là, notre seul objectif, c'est d'amener le régime en place à comprendre que pour pouvoir aller vers la démocratie, vers l'apaisement et vers un état de droit, il faut que des élections libres, démocratiques et équitables soient instaurées au Togo. Nous continuerons à nous battre pour cela.
D'accord.
Et nous invitons les populations togolaises, nous invitons nos frères et nos sœurs qui sont à l'étranger, qui font partie de la diaspora, à nous aider pour que nous puissions obtenir enfin, pour une fois, les conditions nécessaires pour que le peuple togolais puisse enfin choisir ses dirigeants.
Justement.
Moi, j'ai confiance au peuple togolais.
Éric Dupuis.
Que demain, s'il y a des blocages encore, le peuple togolais se comportera différemment, c'est-à-dire sortira comme un seul homme pour faire barrage à cette dictature qui n'a que trop duré dans notre pays.
Jean-Pierre Fabre, candidat potentiel de l'ANC à Lomé pour ces élections législatives, affirme quelques jours qu'il ne va pas déposer un recours à la Cour constitutionnelle. Alors, mais est-ce que vous allez quand même siéger à l'Assemblée nationale lorsque cette même Cour va valider les résultats de ces élections?
Jean-Pierre Fabre n'est pas un candidat potentiel, il est le candidat élu tête de liste.
Justement, oui.
De la liste.
Merci pour l'information.
Il est élu. Vous vous souvenez qu'il a été renvoyé par le pouvoir en place. Maintenant, ils sont rentrés pratiquement tous, à part un député qui est décédé, à savoir Arlen Brousse, et puis un autre qui est actuellement arrêté, il s'agit de Juan Imanti, et puis un autre qui n'a pas été élu. Sinon, les six autres sont aujourd'hui au Parlement. Donc moi, je m'en félicite. Nous allons nous battre, nous allons reprendre la lutte comme on l'avait démarré à l'Assemblée nationale avant qu'on ait connu l'éviction des meufs avec l'appui de Gilles Olympio pour pouvoir apporter le suffrage des Portugais à Fognacibé. Nous allons corriger tout ça et nous allons nous battre pour qu'on puisse obtenir autre chose que ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. Pour nous, il n'y a pas de problème. Vous me parlez de Jean-Pierre Fabre. Aujourd'hui, le peuple togolais a nommé officiellement Jean-Pierre Fabre comme le leader, le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, c'est lui qui doit donner le là au Togo dans la politique togolaise, du moins en ce qui concerne l'opposition. C'est lui qui doit conduire le combat. Donc j'invite toute l'opposition à s'aligner derrière lui pour organiser une autre forme de lutte, une autre stratégie pour pouvoir mettre fin à ce régime totalitaire qui ruine ce pays depuis une certaine année.
Donc, Éric Dupuis, bien que Jean-Pierre Fabre ne veut pas déposer un recours à la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire, d'après vous, qu'il va quand même siéger à l'Assemblée nationale. Hein.
Mais comment voulez-vous qu'on dépose un recours devant une Cour constitutionnelle unique? Cette Cour constitutionnelle, après avoir écrit à l'Assemblée nationale pour dire qu'on ne pouvait pas renvoyer les 9 députés en 2010, s'est précipité 24 heures après pour signer l'acte de renvoi des 9 députés. Cette même Cour constitutionnelle a invalidé 3 listes du CST tout dernièrement en violation de la Constitution, en violation du Code électoral. Cette même Cour, les violations de la Constitution, les violations des lois de la République par Abdou Assouma, qui est le président de la Cour constitutionnelle, n'est plus à démontrer. Donc comment voulez-vous qu'on puisse encore aller voir cette Cour constitutionnelle pour qu'elle tranche un quelconque litige, un quelconque contentieux? Comme disait Jean-Pierre Fabre dans le liminaire de la conférence de presse qu'on avait faite la dernière fois, déposer un recours devant cette Cour équivaudrait à déposer un recours devant une instance politique de RPT Unir. Donc ceci n'est pas concevable. Nous militons pour que cette Cour-là soit recomposée.
D'accord.
Que les gens qui sont là, qui sont inféodés au pouvoir, quittent afin qu'on ait une Cour digne de ce nom et qu'on mette en place une CENI digne de ce nom. C'est tout à partir de ce moment-là. Essayons de faire de nos institutions des vraies institutions, pas des institutions inféodées.
Justement. Éric Dupuis, donc, si l'ANC va siéger à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'un éventuel gouvernement d'union nationale, y compris quelques membres du collectif Sauvons le Togo, est prévisible?
National, nous n'y adhérons pas. Celui qui dit qu'il a gagné n'a qu'à gouverner. Maintenant, quant à siéger, nous allons siéger. Comment voulez-vous qu'il y ait plus de 500 000 personnes qui ont voté pour nous et que nous allons décevoir ces personnes en disant nous n'allons pas siégé? C'est totalement inconcevable. Il ne faut pas oublier que le RPT Unir n'a obtenu que 800 000 voix, je dis bien 800 000 et quelques, et que nous avons obtenu 575 000 voix, et donc la différence n'est pas bien grande. Et en plus de ça, si vous rajoutez les voix de Arc-en-Ciel, 204 000 voix, vous allez voir que nous avons quasiment le même suffrage que RPT Unir et que les 62 sièges sont dus essentiellement au découpage électoral totalement inique et aux fraudes massives. Sinon, aujourd'hui, c'est l'ANC et les partis de l'opposition qui seront majoritaires à l'Assemblée nationale. Voilà la réalité du Togo.
Éric Dupuis, merci. TogoCity.com, IssyLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bien, effectivement, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci d'être toujours en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et bien, pour commenter et analyser l'actualité politique au Togo, effectivement, les résultats provisoires des élections législatives, un membre influent de la diaspora togolaise ici, même en Suisse, à Genève, Dr Atou Kouassi Edem, depuis Genève. Et avant de le recevoir, je vous annonce tout de suite que nous ouvrons tout de suite également notre ligne pour nos fidèles auditeurs qui souhaitent également intervenir. Vous pouvez intervenir si vous appelez de la Suisse 062 834 90 80. Je vous répète, si vous appelez de la Suisse, c'est le 062 834 90 80. Mais si vous appelez de l'étranger, vous composez le 0041 62 834 90 80. Docteur Edem Atou Kouassi, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos.
Merci de nous accompagner encore une fois dans cette émission que vous connaissez très bien. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, on va donner une priorité à notre auditeur là, qui vient d'appeler. Veuillez patienter, docteur Atou Kouassi. Et on va le prendre. Bonsoir, auditeur.
Oui, bonsoir Amos.
Oui, j'ai remarqué tout de suite que vous êtes accroché à votre ordinateur, donc éteignez tout de suite votre ordinateur pour que cela ne cause pas un problème d'interférence. Vous avez une minute pour réagir.
Oui, en fait, c'est pour dire que les élections ne sont pas la solution à la crise sociopolitique du Togo, parce que le Togo est un cas singulier. Ou seul un accord spécial où tous les acteurs se sentiront rassurés pourrait mettre fin à cette crise sociopolitique. Et j'avais proposé il y a quelques années un accord en ce sens, mais les acteurs politiques n'ont malheureusement pas pris en compte ce que j'avais proposé. Les élections pourraient aboutir à l'alternance si nous avions une opposition responsable et organisée. Regardez ce qui s'est passé avec les législatives, où le pouvoir a conduit d'une manière unilatérale le processus électoral, où l'opposition s'est enfermée dans des revendications et exigences sans avoir pris le soin d'évaluer les rapports de force afin de savoir ce qu'elle peut obtenir ou pas. Puisque le rapport de force est en faveur du pouvoir. Et cet unilatéralisme a conduit à une certaine opacité où le pouvoir a occupé le terrain et a conditionné les voix des électeurs. Vous imaginez que c'est la énième fois que les élections se déroulent au Togo et que cette opposition n'est pas à mesure d'exhiber les fraudes dont elle partant.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on se réjouit de la défaite de l'UFC, alors que est-ce que c'est l'UFC que nous combattons ou bien c'est l'UNIR? Voilà le problème qu'il faut se poser.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Norvège. Merci beaucoup. On accueille tout de suite le docteur Atou Edem Kouassi. Bonsoir. Rapidement, et j'espère que vous avez suivi en direct depuis Genève sur le www.canalk.ca. En 3 minutes, commenter et analyser la situation sociopolitique. Vous avez suivi l'intervention de Éric Dupuis, chargé à la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Vous avez suivi les deux observateurs. Rapidement, votre commentaire.
D'abord, je tiens à saluer le travail de la mission d'observation électorale de la diaspora. Ils ont été propres et ont essayé d'être impartiaux. En clair, le résumé de leurs constatations est que ces élections ne permettent pas une avancée démocratique au Togo et qu'il faille revoir pas mal de choses. Je pense que c'est l'une des missions qui a eu le courage de dire les choses telles quelles. Il y a eu l'Institut Gori qui aussi a essayé de relever les failles, sans pouvoir arriver à cette conclusion digne et honnête. Au-delà de cette conclusion, de cette mission, il y a quand même quelque chose à relever, c'est que quand on entend Éric Dupuy, on dit l'opposition togolaise n'est pas lucide. Et dans le pire des cas, c'est que l'opposition togolaise, du moins ceux qui l'incarnent, sont des escrocs politiques, à l'instar du RPT Unia. Parce que comment voulez-vous contester des élections et refuser d'ester auprès de la Cour constitutionnelle alors que vos représentants au niveau de la CENI ont prêté serment devant cette CENI qui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle? C'est cette Cour qui a validé certaines listes et invalidé d'autres. C'est cette Cour qui va proclamer les résultats définitifs. C'est-à-dire vraiment que la Cour soit inféodée, on est unanime là-dessus. Mais dire que parce que c'est inféodée, et on va pas rester auprès d'elle, mais on va siéger à l'Assemblée nationale, alors que si l'Assemblée nationale est confrontée à des problèmes majeurs, elle sera obligée de se référer à cette Cour. Mais ça veut dire quoi, ça? On prend les Togolais encore pour des ignorants. Le discours lénifiant de M. Dupuy est un peu suscite un peu de la nausée de mon point de vue. Je pense que l'opposition togolaise et l'auditeur qui vient de parler tout à l'heure n'a pas mâché ses mots, est irresponsable.
Un auditeur vient de nous appeler, mais malheureusement la communication encore coupée. Mais j'espère que on va le retrouver dans notre édition de Mina, hein, dans la deuxième partie d'ici 3 minutes. Mais Dr Atou Edem Kouassi, donc vu votre développement, vous pensez que cette opposition a failli, hein?
Moi, je j'analyse les faits. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, là où on est arrivé aujourd'hui, et il y a quand même...
Deux secondes, on va donner la priorité à notre auditeur, là, on va lui donner la priorité. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et vous nous suivez, là, votre réaction pour 1 minute, rapidement.
Oui, je vous ai intervenu à propos de l'auditeur qui vient de me précéder. Il pensait que l'opposition s'est trompée de cible. L'opposition, à mon avis, ne s'est pas trompée de cible. La vraie problématique, c'est que les élections se déroulent toujours bien au Togo et c'est au niveau de la transmission des résultats qu'il y a problème. Le pouvoir, sachant bien qu'il ne pourra jamais gagner les élections au Togo, s'est obstiné à truquer les élections au niveau du résultat final. On l'a connu en 1998, on l'a connu en 2003 et on l'a connu en 2005. On l'a connu cette année aussi. La vraie problématique, c'est de savoir comment sécuriser la transmission des résultats. Et l'opposition n'a pas de pouvoir pour le faire. On ne peut pas l'accuser aujourd'hui d'être fautif au niveau de la transmission, puisque ceux qui sont en face sont de mauvaise foi. Et donc la vraie problématique, c'est de penser comment sécuriser les résultats. On peut tout faire.
Merci.
Si on ne sécurise pas la transmission du résultat, on sera toujours triché à la fin.
Merci beaucoup. On continue cette discussion, Amina. Merci de nous avoir appelés. Merci. À bientôt. Eh bien, docteur Atou Kouassi, 30 secondes, on va commencer la toute deuxième partie en Amina, hein.
Parce que la question qu'il pose, c'est que l'UFC, ce n'est pas l'adversaire de l'opposition en tant que tel, que c'est le parti Unir. Et je pense que la réflexion serait, comment devons-nous nous organiser pour mieux réussir le pari de la libération du peuple et non viser des sièges, se dire que je suis le représentant de l'opposition, on n'a qu'à s'aligner derrière, c'est n'importe quoi. On n'a pas de vision, mais on veut dire aux Togolais, suivez-moi. Nous, au CRD, nous ne suivrons pas des gens sans vision et sans cohérence politique.
Justement. Merci beaucoup, docteur Atou Edem Kouassi, de nous avoir accompagnés en direct depuis Genève. On continue quand même en Mina avec vous et avec nos auditeurs qui nous suivent sur www.canalk.ch. Dans un instant, notre édition en Mina.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. fenêtre sur l'Afrique.